Alors, par le type de focalisation qu'il privilégie, le choix du journal intime comme narration dans les fictions adolescentes permettra à l'auteur de mettre l'accent sur le conflit intérieur du personnage et ses émotions, prenant alors la forme soit d'un confident ou même, selon Terry Apter, d'un outil thérapeutique. En effet, le journal intime renforcerait le sentiment du « moi » chez l'adolescente et lui permettrait de réfléchir sur elle-même tout en centrant l'histoire sur son seul point de vue. Mais parce qu'il se replie sur l'intimité du personnage, le journal intime participerait surtout, selon Thaler et Jean-Barth, à un rétrécissement de l'univers adolescent, ce modèle de narration en privilégiant, selon eux, une restriction de champ de l'adolescent qui est alors uniquement centré sur son environnement immédiat, ses émotions et ses problèmes. Daniela Di Cecco note en ce sens le manque d'intérêt que démontrerait le personnage de ses fictions pour tout ce qui est extérieur à ses préoccupations personnelles, limitant du même coup l'horizon du lecteur et participant à renforcer la caractérisation du genre donc du roman comme celui du roman miroir. Donc, habitant l'Ouest canadien durant la crise économique de 1936, Lucy, le personnage du court roman Ultraviolette de Nancy Huston, écrit elle aussi comme tant d'adolescents qui ont tenu un journal parce qu'il leur semblait qu'ils débordaient d'idées, de sentiments et que personne n'était capable de les comprendre ou simplement de les écouter. Cependant, si celui-ci est au cœur d'une introspection, donc qui permet à Lucy de partager ses tourments adolescents comme ses premiers émois amoureux, comme ses règles, il est surtout un espace de réflexion privilégié où se développe une pensée critique, ainsi qu'un outil qui lui permettra de construire son identité intellectuelle. Donc, de cette façon, la fonction duelle du journal dans Ultraviolette contrecarre la fermeture exposée par Thaler et Jean-Barth, et Tico Di Cecco, par une ouverture de champ. Donc, le mouvement de la narration diaristique, qui, selon Béatrice Didier, passerait d'un dehors vers un dedans, est doublé dans le roman d'un mouvement contraire, donc celui d'un dedans qui se répercute vers un dehors, permettant le développement d'une réflexion sur ce qui entoure l'adolescente. Donc ainsi, le journal de Lucy, parce qu'il est à la fois un espace permettant l'émergence d'une voix, un lieu de remise en question et d'ouverture sur le monde, et un outil d'exploration intellectuelle, est au cœur de l'émergence d'une pensée critique qui sera les jalons pour la jeune fille d'une puissante volonté d'émancipation. Donc le journal comme lieu d'émergence d'une voix. Lucy, jeune fille de 13 ans, enfin sortie de l'enfance, nous introduit de l'incipit à son carnet avec un grand C, qu'elle présente comme son journal refuge. Donc, se sentant à part et en décalage avec ce qui l'entoure, elle affirme d'ailleurs que tout l'horripile en ce moment, l'écriture de son journal naît pour elle d'un besoin criant de s'exprimer. Donc, en effet, la jeune fille est réduite au silence dans sa vie quotidienne et ne peut pas poser toutes les questions qu'elle voudrait. Je la cite. « Une fille de 13 ans ne peut pas vraiment poser ce genre de questions à sa mère », par exemple. Donc, le journal apparaît pour elle comme un espace dans lequel elle peut prendre la parole. Je la cite. J'ai besoin de me plaindre. Or, partout autour de moi, on me l'interdit, sous prétexte que c'est égoïste et complaisant, qu'il ne faut pas s'écouter et que, comparé aux autres, nous avons bien de la chance. On dirait que chaque fois que j'ouvre la bouche, je commets un péché d'une façon ou d'une autre. Alors, à toi seul, carnet, je dirai la vérité. » Fin de la citation. Donc, le journal comble un manque chez Lucy qui est celui de la parole. Elle décrit d'ailleurs son carnet comme une sorte de petit paradis où elle voudrait mettre petit à petit tout ce qui lui manque sur Terre, sa parole comme ses pensées. Dans sa thèse consacrée au genre diaristique au Québec, Manon Auger décrit la tenue du journal intime comme, et je la cite, « symbolisant la transgression des interdits et légitimisant l'affirmation d'un moi autonome et indépendant ». Donc ainsi, muette dans la réalité, c'est par l'écriture que Lucy prend voix, apprivoisant un autre langage que la parole qui, elle, possédée par les adultes, lui est interdite. Donc, la position d'énonciation de Lucy se construit dans l'écriture, qui lui permet de devenir un sujet pensant, réfléchissant, et lui permet de canaliser son trop-plein de connaissances. Donc, la pratique diaristique dans le roman Ultraviolette n'a pas de fonction d'accompagnement seulement et de confident, mais répond à un réel besoin et tient un rôle précis dans le développement intellectuel et personnel de Lucy. Donc, l'écriture de son journal permet ainsi à Lucy d'adopter une voix singulière, de se dégager du groupe duquel elle ne veut plus être attachée et de permettre l'émergence d'une parole autonome, c'est-à-dire, je cite Lucy Robert, « une parole qui construit son propre point de vue ». D'ailleurs, je cite Lucy Robert pour la citation suivante, « la création d'un point de vue autonome qui individualise le regard du personnage principal confronté à la société qui l'entoure s'effectue dans une esthétique intimiste qui, tout en étant construite sur des pratiques littéraires traditionnellement privilégiées par les femmes, s'approprie le langage pour lui donner une dimension critique et politique. L'autonomie artistique suppose ainsi l'autonomie de l'écriture, laquelle se veut alors un geste individuel, une démarche personnelle contre les formes socialisées à l'avance. Fin de la citation. Donc, en se confiant, mais aussi en réfléchissant avec elle-même à travers son carnet, Lucie peut se construire de manière identitaire et se constituer en tant que personne subjective. L'espace libérateur offert par le journal lui permet de prendre conscience de l'importance, mais aussi de la singularité de son expérience individuelle et de la complexité de son moi, tout en ayant la liberté d'écrire ce qu'elle veut et ainsi d'être ce qu'elle veut. Je la cite. « Je peux écrire tout ce que je veux ici, c'est extraordinaire. Pas besoin de me surveiller, je suis libre. Je peux mentir, être débile, dire des gros mots et des bêtises, personne ne me punira. » Plus loin, elle dit aussi, « Ici, j'ai même le droit de me vanter si je veux. Ici, j'ai tous les droits. » Donc, l'absence de contraintes permet donc à Lucie d'exprimer ses émotions comme elles viennent, sans les réprimer ou les censurer. Et l'écriture de son journal donc, lui permet en quelque sorte de s'écrire elle-même dans une volonté d'affirmer son individualité et ses désirs par l'écriture. Et si nécessairement donc, la création de sa voix singulière se fait en parallèle et en écho aux autres jeunes filles donc, qui ont tenu un journal intime pour les mêmes raisons que Lucie, celui-ci sera témoin de l'évolution de la jeune fille, donc celle-ci se positionnant par lui en réflexion active face à ce qui l'entoure. Donc, le journal comme lieu de remise en question. Permettant une prise de parole, le journal, dans le cas de Lucie, n'est pas seulement un lieu de description, mais se pose comme un lieu d'interrogation. Donc, en effet, par le biais de l'écriture, Lucie développe et développe une posture critique dans un espace de réflexion participant au développement de son autonomie et de son identité intellectuelle, principalement face aux adultes dont elle rejette les valeurs et les normes. Par exemple, si le journal intime peut être considéré dans le roman adolescent comme un substitut de la mère, cet indispensable reflet identificatoire, la démarche diaristique de Lucie se pose davantage en confident alternatif et compensatoire à sa mère, donc chez qui elle ne souhaite pas trouver de reflet quelconque. Cette posture est démontrée dès les premières pages par la critique qu'elle fait du mariage de sa mère, qui remet en question l'évidence de son destin de femme dans la société qui l'entoure. Je la cite. Le mariage veut dire « toujours, toujours, je promets chérie de m'ennuyer toujours à tes côtés jusqu'à ce que mort s'en suive. » Fin de la citation. Donc, Lucie démontre clairement qu'elle ne souhaite pas suivre la même voie que sa mère et elle critique son choix de devenir une épouse, statut qui, selon elle, lui enlève toute position de subjectivité. La vie routinière qu'aimait ses parents lui paraît aussi insupportable et elle en rejette le déroulement, et je la cite, « Et tout était tellement prévisible, tellement identique à la routine, tellement ressemblant à un jour comme les autres. » Cette vie participant donc, selon elle, à leur aliénation. La religion occupe aussi plusieurs pages du journal de Lucie, qui s'arme à la critiquer et à remettre en cause l'évidence qu'elle semble avoir au cœur de la famille et de son village, qui est secoué par une crise économique. Je la cite. Certes, il n'est pas dans l'habitude des pasteurs de demander à la fin de leur sermon « Y a-t-il des questions? » Mais le fait est que moi, j'en aurais eu plusieurs à poser après cette citation du bon Dieu et pas des petites. Fin de la citation. Mais encore une fois, ne pouvons pas se permettre de tenir ces réflexions à haute voix, car malheureusement, et je la cite, elle ne peut pas se poser ce genre de questions au pasteur, même s'il est sa fille, surtout s'il est sa fille sans doute. Lucie les pose à son carnet. Sa scepticité à propos de la religion rejoint le rejet du modèle de son père, qu'elle critique notamment par la confiance aveugle qu'il entretient face aux dogmes de l'Église, je la cite. Je l'apprécie moi aussi, mon père, je suis juste loin de partager son optimisme. Je n'arrive pas à croire que toute cette souffrance va servir à quelque chose, à nous rendre meilleurs, par exemple. Donc, par sa critique, Lucie cristallise son autonomie de pensée et se pose ainsi en opposition à la figure paternelle, qui ne remet jamais en cause les paroles de Dieu, même si celles-ci se révèlent physiquement problématiques au cœur de la crise économique que subit la région. Donc, de par ses observations et par son jugement, Lucie est capable de réfléchir par elle-même et de constater l'absurdité des paroles proférées par son père. Donc, elle s'empresse de le dire à son carnet, alors que sa mère, elle, si elle le pense, n'ose pas en parler à son mari ni le contredire. Donc, je cite Lucie. « Sécheresse et crise économique en même temps. Ah oui, il nous couvre vraiment de cadeaux en ce moment, notre Seigneur, on peut le dire. Je trouve qu'il a franchement le beau rôle. S'il fait un temps superbe, si les récoltes sont abondantes, c'est chaque fois grâce à lui. Par contre, si les champs crament et que le bétail crève comme en ce moment, ce n'est jamais sa faute. Tu parles d'une logique. » Et si le père de Lucie invite sans cesse à sa table des vagabonds et des hommes de la rue, malgré qu'elle et sa famille aient déjà un très maigre repas à se séparer, en évoquant le miracle de l'apparition du pain, Lucie crie à l'injustice, mais en soutenant son point de vue d'une réflexion pertinente et logique. Je la cite. « S'il voulait que je croie au miracle de la multiplication des pains, mon père, il n'aurait pas dû m'envoyer à l'école. car à l'école, on m'a appris l'arithmétique. Et d'après les lois de l'arithmétique, ce qui se passe quand on partage quelque chose, ce n'est pas la multiplication, mais la division. Fin de la citation. Puis, s'élevant plus haut que les observations physiques qui remettent en cause l'existence de Dieu, de son pouvoir tout-puissant, Lucie utilise son journal pour discuter de son destin en tant qu'être humain, qu'elle suppose au-delà de la présence divine. Je la cite. C'est rassurant, vous ne trouvez pas, de se dire que toute cette série de catastrophes ne signifie rien du tout, que ce n'est pas une punition, mais un simple enchaînement d'événements qui aurait pu se produire avec ou sans être humain sur Terre. Fin de la citation. Donc, sa réflexion se poursuit au-delà, en questionnant la parole même de Dieu et en se retournant face aux humains qui l'entourent, comme prenant part à une immense subjectivité dont personne ne tiendrait la vérité avec un grand A. Je la cite. Personne n'a raison alors? Personne n'a raison? Il n'y a que des points de vue, des fragments de vérité partielle. Et donc, ces réflexions permettent ainsi un tournant philosophique qui oblige Lucie à poser sa réflexion au-delà des phrases toutes faites qu'on lui sert à son âge et qui ne lui apparaissent pas suffisantes pour comprendre le monde. Et donc, le journal, de cette façon, est pour Lucie un espace qui lui permet d'interroger et de discuter des évidences. L'écriture diaristique, par la mise en mots et l'analyse que Lucie fait, lui permet d'ordonner et de traduire une pensée critique qui l'amène à dépasser ses réflexions premières et à contester ce qui l'entoure, en construisant sur papier un argumentaire éclairé. Donc, l'écriture possède, donc, pour Lucie, toutes les caractéristiques de la technologie de l'intellect décrite par Jagoudi, puisqu'elle permet l'organisation et l'ordonnance de sa pensée vers une réflexion transcendante, donc mouvement qu'elle compare en ces mots à une émergence à la lumière. Donc, le journal comme lieu d'ouverture sur le monde. Si Lucie remet en question la parole des adultes qui l'entourent, il en sera autrement dès l'hébergement dans la famille d'un homme médecin, Bernard, âgé de 29 ans. Donc, Bernard, étranger à la région, saura attirer l'attention de la jeune fille par son comportement non conventionnel. Je la cite. J'ai remarqué que lui non plus ne ferme pas les yeux pendant la bénédicité et ne dit pas « Amen » à la fin. Et comme moi, il garde la tête baissée et attend que ça passe. Donc, Lucie trouve ainsi en Bernard le repère qu'elle cherchait, en plus d'avoir enfin la possibilité de confronter sa position avec quelqu'un. Donc, Lucie aura la chance d'être éprouvée et encouragée, enfin, dans son désir de remise en question. En incarnant à la fois l'aventure, l'étrangeté, l'autre, la différence, mais surtout par sa rigueur intellectuelle, Bernard invitera Lucie à délaisser les pensées toutes faites et à user de sa pensée critique, confirmant la jeune fille dans la voie qu'elle avait déjà entrepris de prendre. Je le cite. L'intelligence est complexe et la bêtise est simple. La plupart des gens préfèrent la simplicité, a-t-il ajouté, mais toi, Lucie, je voudrais que tu choisisses la complexité. Donc, la rencontre de Bernard, dégagera l'acuité de Lucie quant à sa conscience des autres et son ouverture sur le monde. Le journal de Lucie sera le témoin privilégié de cette rencontre, et si la réflexion naît d'elle-même au début du journal, Lucie est rapidement prise sous l'aile de Bernard, et le journal finalement cristallisera sa réflexion en la permettant d'éclore. Mon Dieu, excusez-moi. Car c'est suite à la discussion avec Bertrand qu'elle relate amoureusement dans son carnet qu'elle voit ses perspectives s'élargir, que ce soit envers les Ukrainiens qui habitent son village ou, plus proche, ses frères et sœurs. Ces nouvelles considérations viennent bousculer sa vision du monde, et je la cite, « Je n'arrive pas à dormir, cher carnet, c'est comme si ma vie était en train de basculer, mais c'est qu'il s'agit alors de se réveiller vraiment pour enfin s'intéresser au monde. » Donc, bref, le journal sera le lieu privilégié d'une conscientisation, puis de réflexion, qui, à la suite de discussions avec Bertrand, prendront forme dans son journal et l'amèneront à percevoir le monde autrement. Le journal comme outil d'exploration intellectuelle. Donc, finalement, le journal est au cœur d'un développement de la pensée critique autonome de Lucie, puisqu'il est, à travers les différentes réflexions qu'elle va faire, un outil d'exploration du langage. Donc, en effet, comme si elle ne pouvait pas retenir toutes ses pensées qui fleurissaient dans son esprit, les entrées du journal sont parsemées de jeux de mots, de réflexions sur leur usage. Bref, Lucie s'amuse avec le sens et les idées dans une grande facilité à jongler avec la matière première de sa réflexion. Donc, Lucie, elle le dit elle-même, elle réfléchit beaucoup aux mots. Elle aime bien les mots en tant que tels. Par ce jeu de mots, elle s'amuse à approfondir son langage et développe une conscience aiguë des mots qu'elle utilise, par exemple. Sans parler du regard perpétuellement courroucé de maman. Pas mal ça, perpétuellement courroucé. Bien plus intéressant que toujours fâché ou constamment en colère. Elle convoque aussi des figures de style et les pointe par une réflexion sur celle-ci. Je la cite. Alors, qui suis-je pour venir là et gribouiller en grognant et en grommelant et en grinçant que j'ai faim? Ça s'appelle de l'allitération. Donc, elle s'amuse aussi avec la signification des mots et joue avec leurs racines. Je la cite. J'ai besoin de calories. Je sais que le mot calorie a la même racine que chaleur, mais il ne faudrait pas tout mélanger. Ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est plus de calories et moins de chaleur. Voilà. Mais surtout par ses jeux de langage, Lucie s'élève à des réflexions sur la puissance de l'écriture et les fondements de l'imaginaire en questionnant le vrai et le réel qu'il propose. Je la cite. On n'est pas obligé de se limiter au vrai, au réel. Ce qu'on imagine est réel aussi. Tu comprends? C'est magique. Tout change ici du fait même de l'écrire. Un carnet, c'est un vrai laboratoire de sorcière. Fin de la citation. Ainsi, elle permet d'interférer les mots avec leur réalité. Je la cite encore. J'écris le mot « chocolat » et j'ai envie de le lécher, mais ça ne ferait que brouiller l'angle sur la page, donc je me retiens. Je regarde le mot, le prononce à voix basse, ferme les yeux et suscite le goût du chocolat, mordillant un tout petit bout de brownies dans mon imagination. Donc, ces nombreux jeux de mots et de langage qui imprègnent le propos diaristique de Lucie permettent de voir une prise de distance de la jeune fille face à son propos. Donc, Lucie, en effet, produit une réflexion critique sur ses propres écrits qu'elle confine dans son journal. Par cette auto-réflexion se crée alors, dans le journal, un double mouvement réflexionnel, donc l'un sur sa vie et l'autre sur son processus d'écriture lui-même. Cette vivacité d'esprit témoigne de la capacité de Lucie de se positionner comme critique et d'élaborer une analyse qui dépasse ce qui l'entoure intimement. Donc ainsi, le journal la positionne comme sujet pensant et surtout la constitue comme éminemment active, même donc dans sa sphère personnelle. Donc, c'est le journal dans le roman Ultraviolette accompagne Lucie au moment de son entrée dans l'adolescence. Il dépasse la fonction seule de confident, normalement attribuée au journal dans les fonctions pour ce public, pour devenir le lieu où se développe une pensée critique qui mènera tranquillement le personnage féminin à poser une réflexion sur ce qui l'entoure. Donc, ainsi, loin d'être un espace narratif qui retient le personnage au cœur d'un univers fermé sur lui-même, il propose au contraire une ouverture de champ qui la retourne vers l'extérieur. Donc, le journal se positionne alors comme un outil qui accompagne Lucie dans le développement de son identité intellectuelle et qui agit en quelque sorte à la manière d'un pont entre elle et l'extérieur, à la manière d'un filtre inversé, d'un témoin du réel augmenté par l'effet de sa transcription sur papier. Et donc, si au final on ignore réellement la réelle longueur du carnet, donc s'arrête-t-il réellement à la fin du roman pour Lucie comme pour le lecteur, sa brièveté circonscrit tout de même une période brève mais charnière. Il lui associe une utilité précise, celle d'un tournant intellectuel majeur chez la jeune fille. Le processus d'autonomisation intellectuelle qui permet le journal dans Ultraviolette pose aussi les jalons de développement d'une puissante volonté d'émancipation et participe surtout à façonner un modèle adolescent qui se développe en marge du monde adulte. Et donc, finalement, Thaler et Jean-Bart comparaient les personnages du genre du roman miroir, centré sur soi, à ceux du roman d'aventure. Les premiers, selon eux, et je les cite, vivent dans l'éphémère, pour qui le temps ne va pas au-delà de l'immédiat, dont rien ne les soulève, rien ne les emporte et qui n'ont pas de perspective d'avenir, sont comparés à ceux du Bildungsroman, donc le roman d'aventure, dans lequel le héros se construit et en même temps qu'il se fait, se découvre une ambition, un futur vers lequel il est désormais tendre de toutes ses forces. Donc, suite à notre réflexion, le journal de Lucie se poserait à la croisée, dans le fond, du roman miroir et du roman d'apprentissage. En effet, le journal, en plus de présenter une forte conscience critique de son environnement, se clôt surtout sur la consécration d'une perspective d'avenir et d'une ambition vers laquelle tend le roman depuis le début. Et là, je vous cite les dernières lignes du roman. Terminer l'Église, les bienséances, les réponses toutes faites. Dorénavant, je suivrai l'exemple de Bernard Beauchemin, qui, oui, bientôt, très bientôt maintenant, je mettrai mes pas dans les siens et voyageant, étudiant, lisant 1000 livres et posant 1000 questions, je me construirai une existence à moi. Plus de compromis. Ceux qui m'aiment m'aimeront, les autres tomberont en chemin, à moi la liberté. Et donc, à la fin, à l'image du roman, est la consécration de l'ouverture. Donc, elle propulse l'héroïne vers l'extérieur et métaphorise en elle-même le pivot fondateur de sa future émancipation. Merci.